Une réforme de l'audiovisuel public avec la création de France Média qui serait une sorte de BBC à la française, ça vous intéresse en tant qu'auditeur de l'audiovisuel public et plus particulièrement de France Culture, mais plus généralement cela intéresse tous les citoyens français puisque ça va rebattre en partie les cartes dans le secteur de l'audiovisuel parce que les mouvements au sein des médias sont extrêmement important actuellement et que la démocratie sans médias, eh bien, cela n'existe pas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité deux personnes qui connaissent extrêmement bien cette question. Tout d'abord, Julia Cagé, professeure d'économie à Sciences Po et spécialiste de l'économie des médias. Bonjour. Et à côté de vous, un homme qui a suivi toutes les négociations pour arriver donc à cette réforme et à cette création d'un France Média, une BBC à la française, Enguerrand Renaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef médias et technologie au Figaro. Alors il faut tout d'abord nous dire quels sont les principaux points de cette réforme, en quoi celle-ci a véritablement un caractère novateur selon vous.
Dans l'audiovisuel public, alors le principal point, vous l'avez dit, c'est la création d'une holding, hein, France Média, qui regroupe France Télévisions, Radio France, l'INA, France Média Monde, et pas Arte France ni TV5 Monde qui, eux, sont régis par des conventions internationales. On regroupe tout ça dans France Média Monde et effectivement, on nomme un conseil d'administration dans lequel l'État sera minoritaire. Donc c'est un des garants de cette indépendance. On nommera un président ou une présidente qui aura la main sur les finances, la dotation, c'est-à-dire l'intégralité de ce qu'on donnait auparavant à France Télévisions, à Radio France, sera mis dans un pot commun qui donnera les grands axes stratégiques. Et il y en a beaucoup, hein. On parle du numérique, on parle de l'information. Enfin, il y a énormément de chantiers, le podcast par exemple. Tous ces chantiers seront pilotés en haut. Et puis en bas, dans ce qu'on appelle les filiales.
Ici, par exemple. En bas.
Eh bien, il y aura des directeurs ou des directrices généraux qui eux-mêmes seront nommés par un conseil d'administration, voilà, et qui auront plutôt une vision sur la ligne éditoriale, voilà. Et ce seront des éditeurs et qui seront garants de la ligne éditoriale de Radio France et de France Télévisions. L'idée, c'est quand même de faire travailler de plus en plus tous ces gens ensemble, de faire du numérique partager, de faire ce qui existe déjà, c'est-à-dire France Info, de l'information partagée, et donc de partager de plus en plus de moyens.
Très bien, mais alors dans ces conditions, Enguerrand Renaud, pourquoi tout simplement ne pas fondre l'ensemble de ces sociétés en une seule société, plutôt que de créer une strate supplémentaire, puisqu'en fait, l'idée de créer une holding, ça veut dire que il va y avoir une entreprise de plus censée gouverner l'ensemble.
Bah parce que ça fait peur, fondre, ça fait peur. Ça a été évoqué plusieurs fois.
Ils ne voulaient pas nous fondre.
Voilà. Non, mais ça fait peur. Les journalistes et les salariés de l'audiovisuel public ont peur de ça. Et puis, il y a toujours ce vieux fantasme, alors on parle de la BBC à la française, quand on veut dire que c'est plutôt positif, et puis on parle de l'ORTF, qui est quand même vieux, hein, 1974, quand on veut avoir une vision négative. Mais au fond, il y a quand même une peur de perdre son identité.
Parce que la BBC s'est fondue, en revanche, c'est-à-dire qu'il y a une seule société.
Mais depuis le début. Donc au moins ils ne se reposent pas la question.
Donc en fait, les différents services sont des services qui appartiennent à la même société, qu'ils fassent de l'image, du son, du podcast, etc. Le fait de créer une holding avec un président, une présidente non exécutive...
Exécutive.
Exécutive.
Exécutive. Ah oui. Et là, c'est très important parce qu'on a...
Alors donc ça veut dire que celui-ci aura la possibilité...
Beaucoup de pouvoir, finalement. On a cru à un moment que ça pouvait être une coquille vide. Voilà. Et en fait, a priori, non. C'est-à-dire que le ou la présidente auront énormément de pouvoir, effectivement, et surtout pourront créer des entités communes. Par exemple, ils peuvent créer une division informatique commune, ils peuvent créer une régie commune, ils peuvent créer une division numérique commune. Et à terme, ils peuvent effectivement faire remonter tous les pouvoirs et tous les nouveaux projets en haut.
Julia Cagé.
Il y a plusieurs points. Hein. Déjà, en termes de fusion, pourquoi on n'a pas tous voulu vous fusionner? Il faut savoir qu'il y a quand même eu une expérience précédente de fusion qui est France Média Monde. Là, ils n'ont pas été très innovants sur le titre. Hein. Ils ont juste enlevé Monde, qui était la fusion de France 24 et de RFI. En fait, si on regarde la réalité de la structure, ça n'a pas du tout fusionné, sauf géographiquement. Simplement parce qu'on a quand même des métiers, même si maintenant vous avez de la vidéo à la radio, on a quand même des métiers qui sont fondamentalement des métiers différents. Et en plus, si on y rajoute l'INA, qui a en plus des missions différentes, un métier qui est différent, ça semble assez étrange de fusionner tout ça. Là où je vois que cette holding va avoir beaucoup de pouvoir et peut-être trop. Et ce qui m'interroge, c'est sur la question de la répartition du budget. Parce que comment ça fonctionne jusqu'à présent? Jusqu'à présent, on a des contrats d'orientation et de moyens entre les différentes structures, entre France Télévisions et l'État, entre Radio France et l'État, qui sont des contrats d'orientation et de moyens, on appelle ça des com, qui durent 5 ans. Pourquoi on a toujours fait durer ça 5 ans? Parce que l'idée, c'était de découpler le financement de ces différentes structures du temps politique. Mm-hmm. Et pour pas à chaque fois qu'on ait un nouveau gouvernement, un nouveau président de la République, une nouvelle majorité, finalement, ils puissent décider d'aller taper sur France Télévisions, sur Radio France, si jamais il n'est pas d'accord avec la ligne éditoriale, en les punissant financièrement. Et ça, il y a différentes manières, vous savez, de financer l'audiovisuel public un peu partout dans le monde. Et cette idée de s'engager sur le long terme, c'est une des manières qui fonctionne le mieux pour avoir des médias indépendants. On voit que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, il y a pas mal de coups d'épée, d'attaques qui sont portées à ces coms. Notamment, il a remis en cause celui de France Télévisions comme celui de Radio France en demandant des économies en plein milieu du com. Donc, on était sur des contrats qui devaient durer 5 ans, puis en plein milieu, il dit « Ah non, finalement, France Télé, il faut économiser quasiment 200 millions d'euros, etc. » Là, ça va être encore plus compliqué, puisqu'en fait, on va avoir une superstructure qui va répartir l'argent entre des sous-structures, et finalement, on se demande dans quelle mesure on va vraiment avoir une indépendance au niveau de la répartition du budget, sachant qu'on dit pas de poids sur la ligne éditoriale, mais on sait très bien que les moyens qu'on donne à une rédaction ont quand même un fort poids sur la réalité de son travail éditorial.
Alors, il y a deux questions dans ce que vient d'évoquer Julia Cagé. Le premier point quand même, Enguerrand-Renaud, la question budgétaire. Au début, on a dit que ça n'était pas une question importante, et puis finalement, elle ne semble pas être si inessentielle que cela. D'ailleurs, j'ai cru voir que la redevance avait baissé d'un euro. Comment ça se fait, un euro? Vous pouvez nous expliquer ça?
Ah oui, alors c'est assez simple. C'est-à-dire qu'effectivement, en l'été 2018, l'ex ministre de la Culture Françoise Nyssen avait décidé d'une trajectoire financière qui allait de 2019 à 2022. Voilà. Et cette trajectoire nécessitait de faire 190 millions d'économies pour l'ensemble de l'audiovisuel public, une grosse partie pour France Télévisions, dont 35 millions, pardon, en 2019. Voilà. Ça a été réalisé et on l'a vu dans la souffrance puisqu'il y a eu un plan de départ à France Télévisions. Il y a des négociations en cours ici à la Maison de la Radio, donc c'est pas facile, mais c'est en train d'être réalisé. Et alors, ces économies, donc 30 millions et puis on va arriver à pratiquement 200 millions, ça veut dire que si on ne baissait pas la redevance, il y avait, paradoxalement, beaucoup d'argent qui arrivait dans les caisses de l'État. Trop d'argent. Et à chaque fois qu'il y a trop d'argent, la tentation, c'est de retirer cet argent supplémentaire du financement de l'audiovisuel public pour le mettre dans les caisses de l'État.
Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une tentation, c'est ce que j'ai pu lire ici ou là, de Gérald Darmanin, qui est, je crois, ministre du Budget, et de peser sur Franck Riester, qui est, je crois, ministre de la Culture?
Absolument, ça vous croyez bien. C'est au-delà d'une tentation. On le sait, et Gérald Darmanin l'avait dit, lui veut supprimer la redevance. Alors, supprimer la redevance, c'est une belle idée. C'est remplacé par quoi?
Vous trouvez que c'est une belle idée?
Non, mais c'est une belle idée comme ça, pour lui.
Intellectuellement.
C'est ironique. Mais la vraie difficulté, c'est la remplacer par quoi? Et la remplacer par quoi? Ça serait par ce qu'on appelle des dotations budgétaires. Alors, il y a une différence fondamentale. La redevance, c'est de l'argent, c'est 4 milliards d'euros, qui est fléché. Ça ne sert qu'à financer l'audiovisuel public. Les dotations budgétaires, ça change. C'est-à-dire, tous les ans, au mois d'octobre, un gouvernement peut décider de mettre de l'argent, ou de le retirer, ou d'en mettre plus, ou d'en mettre moins. Il n'y a pas de pérennisation du financement. Or, ce que les présidents et les présidentes de l'audiovisuel veulent, ils comprennent qu'il faut réduire un peu la voilure, ça ils ont compris, mais en revanche, ce qu'ils demandent toujours, c'est d'avoir un financement pérenne, et ce que Julia disait, une vision à 3 ans ou 5 ans.
Julia Cagé.
Je rebondis sur l'expression « ils ont compris », ils n'ont pas eu le choix.
Ils n'ont pas eu le choix.
C'est, c'est intéressant la manière dont vous racontez ce qui s'est passé autour de la redevance. Parce qu'en fait, là, il faut quand même noter que le niveau de la redevance en France, en comparaison internationale, on parlait de la BBC tout à l'heure, par rapport au Royaume-Uni, par rapport à l'Allemagne, est relativement faible. Donc c'est pas comme si on avait une redevance qui pesait très lourd en France par rapport à ce qu'on peut constater ailleurs en Europe. Donc on aurait aussi pu très bien avoir une stratégie qui consistait à dire, avec une redevance qu'on n'avait pas à augmenter mais qui ne diminue pas, on peut continuer à avoir davantage de moyens pour l'audiovisuel public. Pourquoi j'insiste sur ce point ? Pas pour vous faire plaisir ce matin parce que je suis sur Radio France, tout simplement parce qu'on voit que les médias privés, eux, et y compris les radios et les chaînes de télévision privées, sont plutôt dans des positions financières relativement difficiles, notamment du fait de l'effondrement des recettes publicitaires et d'une concurrence croissance d'un certain nombre de nouveaux acteurs, et donc ont plutôt eu tendance à devoir, et là pour le coup ils devaient, parce qu'ils n'avaient pas le choix, faire des économies, y compris des économies en termes de rédaction, en termes de journalistes, en termes de moyens d'investigation. En France, on a la chance d'avoir un audiovisuel public qui fonctionne bien, et auxquels les Français, en moyenne, font davantage confiance que dans les autres médias. Et du coup, moi, je pense qu'il est préférable, un, de maintenir la redevance, et ça, pour le coup, toutes les études internationales montrent qu'il y a davantage d'indépendance dans les pays où il y a une redevance, c'est-à-dire des recettes fléchées, que dans des pays où on renégocie le budget chaque année avec les autorités de tutelle. Un, maintenir la redevance, et deux, être plutôt sur une trajectoire de dépenses qui soit au moins constante, voire croissante, mais qui ne fait pas de sens dans cet univers de médias privés en crise, d'affaiblir un peu plus l'audiovisuel public.
Alors, le deuxième aspect que vous évoquiez, Julia Cagé, tout à l'heure, c'est l'aspect indépendance. Lorsqu'on crée une holding, ça veut dire aussi qu'on va avoir des modes de nomination des dirigeants qui vont être différents, mais qui ne seront plus nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est bien entendu indépendant, mais là, il sera encore plus indépendant, puisque là, il y aura, a priori, des conseils d'établissement distincts et qui auront donc des possibilités de décision en la matière. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Est-ce que le fait, finalement, d'avoir d'une part des nominations distinctes du pouvoir politique et d'autre part des décisions qui seront faites au niveau de la holding et plus au niveau des ministères, est-ce que ça pourrait rendre ces médias plus indépendants, changer en tout cas la donne en Guérin-Renault ?
Alors ça, c'est un sujet central. Hein. C'est vraiment le sujet sur lequel beaucoup de gouvernements auparavant ont réfléchi et on a testé plusieurs solutions.
Qu'est-ce qu'on a testé ?
Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy avait dit effectivement, le mode de nomination des présidents de l'audiovisuel public est hypocrite. On est financé par l'exécutif, donc c'est l'exécutif qui doit nommer. Bon, ça a été à la fois catastrophique parce que chaque fois qu'un président était nommé par l'exécutif, quand il rentrait dans la maison, c'était l'œil de Moscou, quoi. Il était vu comme l'œil de Moscou. Donc ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré que moins d'un quinquennat. Ça a été remplacé par l'idée qui avait été développée par François Hollande de faire la nomination par le CSA. Alors le CSA, c'est une bonne solution. Il y avait un souci qui était effectivement le CSA, c'est l'arbitre des médias. Et par exemple, il avait une difficulté à se déjuger. Et on l'a vu ici avec l'affaire Mathieu Gallet, c'est le CSA qui avait nommé Mathieu Gallet et c'est le CSA qui a dû démettre Mathieu Gallet sous la pression. On se souvient de l'affaire.
On disait qu'il y avait un problème d'indistinction entre un organe de nomination et un organe de contrôle.
Exactement. C'était assez compliqué également. Pourtant, c'était une idée relativement séduisante. Il reste ce qui, effectivement, est partagé à peu près partout. Alors, c'est un conseil d'administration. Alors, il y a la BBC, si on reprend la BBC, c'est un trust, mais c'est une structure et une philosophie qui n'existe pas en France, et donc on va passer par une solution française qu'on appelle un conseil d'administration. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, on reporte le problème sur la composition de ce conseil d'administration. Parce que si on dit que le conseil d'administration, si l'État a la majorité des voix, eh bien, ça revient à une nomination par l'État. Et donc, il faut trouver un équilibre subtil entre un conseil d'administration dans lequel effectivement il y aura 12 membres, dans lequel l'État n'aura directement que 3 membres, et puis indirectement, parce qu'il y a quand même des nominations par le Parlement, il y a quand même des nominations...
Ce qui veut dire que la majorité pourrait être majoritaire.
On va voir en l'État, normalement, sur le papier, normalement, sur le papier, mais là, après, c'est une composition, c'est un cénacle de personnes, donc les influences des personnes, on ne sait pas, mais normalement, sur le papier, ça devrait garantir une indépendance. Est-ce que ça va le faire? Franchement, on n'en sait rien, ça va dépendre de la composition.
Non, moi, en termes de composition, on joue un peu sur les mots en disant que l'État sera minoritaire, parce qu'on aura des membres nommés par l'État plus des membres nommés par le Parlement qui cumulés ensemble seront majoritaires.
Entre effectivement l'exécutif et le législatif, quand même.
Par les salariés, mais donc ça aura a priori quand même davantage la couleur de la majorité qu'une couleur complètement neutre politiquement. Ensuite, moi je pense qu'il faut innover. Et là, ils ont quand même fait une réforme qui, du point de vue de la gouvernance, n'innove vraiment pas suffisamment. C'est vrai qu'on n'a pas la tradition du trust comme la BBC.
C'est quoi
en
un
France,
trust?
Mais pourquoi ne pas l'apporter? En fait, la manière dont ça fonctionne à la BBC, il y a eu pas mal de réformes aussi à la BBC, hein, mais dont ça fonctionne depuis 2007. Il y a une procédure que je trouve très saine parce qu'elle est très ouverte et transparente. Vous allez avoir 12 membres de ce trust qui, en fait, ça va être des positions ouvertes auxquelles des personnalités peuvent candidater. Donc, en fait, c'est presque un poste que vous ouvrez. Les gens envoient leur CV, il y a des auditions. Tout ça se fait de manière très transparente et beaucoup plus transparente de ce qui a pu se faire en France autour de la nomination des présidents de l'audiovisuel public par le CSA. Parce que tout le problème de cette nomination, c'est qu'on n'avait pas le nom au départ des gens qui candidataient. Donc il y avait des décisions prises sur des dossiers, sachant que le grand public ne connaissait ni le contenu de ces dossiers, ni le nom des candidats. Ce qui pose quand même problème ensuite, si on s'interroge sur l'objectivité du choix. Au Royaume-Uni, c'est transparent. C'est une procédure ouverte. À l'arrivée, vous avez une décision qui est prise en gros par le ministère de la Culture et un peu le ministère des Sports, des Médias, etc. Bon, vous avez cette structure qui choisit parmi tous les dossiers qui lui sont soumis au cours, à la suite d'auditions qui sont ouvertes sur des projets qui sont défendus avec un certain nombre de règles très claires. Au final, c'est la reine qui nomme, parce que bon, le mot final au Royaume-Uni revient toujours à la reine, mais c'est quand même pas ça qu'il faut retenir. Et c'est vrai que je pense que ça aurait été préférable qu'on innove dans ce sens en France, parce qu'on fait pas des réformes de l'audiovisuel tous les deux jours. Et donc là, on a quand même un peu loupé
tous les quinquennats quand même.
Ah oui, les réformes de l'audiovisuel, c'est à peu près tous les quinquennats, ça c'est à peu près sûr. C'est vrai que Julia Cagé disait qu'il y avait ce qu'on appelait les com, c'est-à-dire les trajectoires,
contrats d'objectifs et de moyens.
Contrats d'objectifs et de moyens.
C'est-à-dire honnêtement, est censé
le machin, une fois qu'il est signé, le lendemain ou le surlendemain, l'État s'assoit dessus. Donc il faut quand même savoir.
C'est ce qu'il a fait de manière assez régulière, je crois.
Mais régulièrement. Donc ça veut dire que ça veut dire que ça fait quand même des années où on essaye d'asseoir quelque chose de, j'allais dire, pérenne et transparent, et c'est piétiné à chaque fois. Donc c'est compliqué, c'est véritablement compliqué de piloter l'audiovisuel public.
C'est compliqué, mais est-ce que cette mesure avec ce France Média permettra un peu de clarifier les choses en Guérin-Renault?
On l'espère. Mais on le voit qu'à l'utilisation, qu'à l'usage, je dirais, puisque les réformes précédentes n'ont pas fonctionné.
On va continuer d'évoquer l'évolution des médias en démocratie avec une crise qui traverse tous les médias, à la fois pour la question de la création avec l'apparition des plateformes, mais aussi avec la crise que traverse la presse traditionnelle. On l'a vu avec la crise au Monde, on le voit également avec un mouvement de concentration et de rachat dans un certain nombre de groupes de presse. Bref, on va tenter de clarifier cela et de voir comment notre démocratie peut se doter de médias qui la servent. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. Nous voilà en plein dans le débat du jour consacré à la démocratie et aux médias. On va faire réagir donc immédiatement nos invités. 8h22.
Les matins de France Culture, 7h-9h. Guillaume Erner.
Nos invités, à savoir Enguerrand Renaud, rédacteur en chef médias et technologies au Figaro, et Julia Cagé, professeur d'économie à Sciences Po Paris, spécialiste de l'économie des médias. Une réaction par rapport à ce que vient d'évoquer Frédéric Seille sur l'indépendance des médias et la possibilité pour certains partis politiques d'accorder ou non l'autorisation à des journaux, à des organes de presse, l'autorisation donc de les suivre, Julia Cagé.
Moi, je trouve que la réaction d'un certain nombre de rédactions, Le Monde, immédiatement après l'annonce, Le Figaro aussi, je crois, de dire que voilà, si Libération, si Le Quotidien, si l'Opinion ne sont pas accrédités, on ne couvrira pas l'événement, et la bonne réaction, et je pense que c'est la voie à suivre pour la suite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les médias et cette solidarité se mettent tous ensemble et disent aux différents mouvements politiques de tous bords, si vous n'accréditez pas l'ensemble des journalistes parce que ce n'est pas à vous de faire le tri, c'est ça quand même une démocratie, eh bien alors personne ne viendra. Je sais que c'est une stratégie qui est risquée parce que du coup ça risque d'alimenter la vision d'un certain complot, d'une opposition des médias traditionnels à un certain nombre de partis. Et puis vous rappeliez tout à l'heure l'existence de silos, donc ils auront toujours des chaînes pour communiquer un tout petit nombre de personnes. Mais je pense que si les médias s'y tiennent, finalement les partis devront perdre cette mauvaise habitude qu'ils sont en train d'acquérir et qui moi me fait extrêmement peur, parce que ça alimente quand même non seulement un déni de démocratie, mais surtout ça alimente la défiance croissante d'un certain nombre de citoyens envers les médias, en désignant qui seraient les bons journalistes, qui seraient les mauvais journalistes, qui seraient les bons médias et qui seraient les médias qui ne seraient pas acceptables ou déviants.
Enguerrand Renaud.
Bah, ça pose la question du pluralisme, et le pluralisme c'est au centre, c'est la base de la démocratie. Et en fait, dans cette question de pluralisme, les hommes politiques on confond tout. Quand on est dans l'audiovisuel, c'est-à-dire ici, on doit être pluriel. Voilà, et on doit respecter tous les points de vue. Et donc, les médias audiovisuels doivent être pluriels intrinsèquement. Dans la presse, le pluralisme vient du fait qu'il y a une diversité des titres, d'accord ? Et c'est ça la base du pluralisme de la presse. Donc il y a une presse qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et si on n'accepte pas ce pluralisme, eh bien, et si on choisit, eh bien, on sape la démocratie et on sape le pluralisme dans la presse. La presse a un point de vue. D'accord ? Et c'est l'ensemble de ces points de vue qui fait le pluralisme. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.
Justement, puisqu'on parle de pluralisme, d'indépendance des médias et que l'on évoquait France Média, autrement dit, cette réforme, est-ce que celle-ci, selon vous, Julie Acagé, Enguerrand Renaud, selon vous, va-t-elle en matière donc de liberté et à la fois d'indépendance des médias, distendre le lien entre le pouvoir politique et les rédactions, les différents médias? Vous faites la moue, Julie Acagé.
Écoutez, moi je pense que ça va pas changer grand chose sur les questions éditoriales par rapport à aujourd'hui, et que si vous regardez l'audiovisuel public, l'ensemble des groupes bénéficient quand même d'une grande indépendance, notamment parce que quand il y a des volontés d'intervention du pouvoir politique, les journalistes savent protester, savent se défendre et le font plutôt très bien, et j'applaudis des deux mains. La question qui me préoccupe plus, c'est ce qu'on disait en première partie, c'est vraiment celle des financements, de la stabilité des financements. Bon, là, ils n'ont pas encore remis en cause la redevance, mais on voit quand même que ça pousse dans cette direction. Tout à l'heure, Enguerrand Renaud disait presque comme quelque chose de normal, il y a un com et le pouvoir politique s'assoit dessus. Oui,
un contrat d'objectifs et de moyens, c'est-à-dire
un financement sur le long terme, ça ne devrait pas. Et je veux dire, à chaque fois, on devrait protester et dire non. C'est une atteinte à ce financement de long terme qui garantit l'indépendance de l'audiovisuel public. Et de ce point de vue-là, moi, alors ça peut sembler un aspect un peu technique de cette réforme, mais de ce point de vue-là, moi, le fait que cette nouvelle holding ait la main sur la répartition des moyens financiers entre les différents groupes, c'est ce qui m'inquiète le plus. Et je pense que c'est ce qui pourrait venir affecter le plus. Alors je vais pas dire l'indépendance, parce que encore une fois, c'est pas ça qui va déterminer la ligne éditoriale des rédactions, mais si ça vient en affaiblir certaines par rapport à d'autres, quand même, ça peut être une conséquence directe de cette réforme.
Enguerrand Renaud.
Alors, Julie Acagé a absolument raison, puisque l'information a un coût. Effectivement, avoir des reporters, ça a un coût. Avoir des rédactions, ça a un coût. Et donc, effectivement, une des manières, si l'État toutefois avait l'envie d'influer, ça serait pas d'influer directement en téléphonant au directeur de la rédaction, ça ne se fait pas, enfin je sais pas, vous pouvez en témoigner, ça ne se fait pas ici. En revanche, couper les moyens, c'est-à-dire moins d'investigation, c'est-à-dire moins de rédaction, eh bien ça affaiblit. Et Julia avait fait un très bel ouvrage sur le fait que une fois qu'on a affaibli, eh bien on ne reprend que l'information qui circule. Et vous disiez, je crois, ce chiffre m'avait beaucoup marqué, que 74% de l'information qui circule, c'est du copier-coller. Donc si on fait du copier-coller, il y a même plus besoin d'appeler les rédactions, puisqu'il n'y a rien, c'est vide.
Non, effectivement, ce type d'intervention ne se fait pas. En tout cas, nous, on n'en a jamais connaissance. Donc, on fait notre métier comme on le veut. Et notre crainte, c'est évidemment d'être marginalisé avec des financements qui viendraient à manquer. Dans un paysage de la presse, parce qu'il faut parler de cela aussi, et avec un métier qui se paupérise très largement, avec finalement des médias qui ne sont plus indépendants, je veux dire au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'ils sont tous entre les mains d'oligarques. Il y a quelques médias qui sont indépendants, le Canard Enchaîné, Charlie Hebdo, La Croix, même si La Croix a une structure particulière, L'Humanité, bref, voilà le paysage. Et vous disiez tout à l'heure, Enguerrand, Renaud, que l'information se paye, c'est une évidence. Tout le monde, cela dit, n'est pas prêt à la payer. Je crois que Google rechigne un peu à le faire.
Ah oui, alors là, c'est un scandale.
Alors justement, il faut expliquer ce que ça veut dire, parce que c'est un peu compliqué.
On va essayer d'expliquer ça concrètement. Il y a eu, en Europe, au Parlement européen, le vote d'une loi sur les droits d'auteur et les droits voisins. Les droits voisins, c'est effectivement la possibilité de faire payer l'utilisation de la presse par Google. Google fait remonter sur son moteur de recherche des petits résumés, ce qu'on appelle des snippets, mais des petits résumés.
Des snippets.
Très bien,
je suis heureux d'apprendre.
Et donc la presse française a beaucoup œuvré pour qu'en Europe, on reconnaisse le droit de payer cette petite information. Et Google, cette loi a été transposée très rapidement dans le droit français. Elle doit s'appliquer le 24 octobre. Et Google vient de dire hier, eh bien très bien, je vais me conformer à la loi française, heureusement. Et donc, c'est assez simple, je vais donner le choix aux éditeurs, soit effectivement il veut continuer à ce qu'on lui paye les snippets, il a dit je vais arrêter les petits résumés, d'accord. Et donc, soit les éditeurs me cèdent les droits voisins, et là ils auront le droit de mettre des petits résumés eux-mêmes, soit ils me cèdent pas les droits voisins et je ne les paierai pas, et je ferai des tout petits filtres, ce qui fait que dans le référencement, les news vont baisser dans le moteur de recherche. C'est le choix entre la mort lente et la mort rapide. Voilà. C'est absolument scandaleux. Alors, ce qu'on espère tous, c'est que c'est un début de négociation, c'est une position de négociation, et qu'on va aller beaucoup plus loin et qu'on va finalement réussir à être payé par Google.
Julia Cagé.
Malheureusement, je ne suis pas aussi optimiste que vous, parce qu'il y a un passif dans l'histoire, et qu'il y a eu déjà deux bras de fer dans le passé entre Google et des médias européens. D'une part en Allemagne, et d'autre part en Espagne en 2007. Et ce qui s'est passé en Espagne en 2007, c'est que malheureusement, les médias, face à leur mort rapide, ont couru après Google et ont demandé à Google, s'il vous plaît, réindexez-nous sur Google News. À l'époque, ce qu'on disait, c'était oui, mais le problème, c'est que l'Allemagne est un petit marché pour Google, l'Espagne est un petit marché pour Google. Ce qu'il faut, c'est que cette régulation ait lieu en droit européen. Et d'ailleurs, moi, je trouve qu'à l'époque, au début du quinquennat de François Hollande, le ministère de la Culture en France avait plutôt pris une mauvaise décision, puisqu'ils étaient allés négocier en bilatéral avec Google un fonds d'aide pour les médias français de quelques dizaines de millions d'euros, donc littéralement une goutte d'eau, en échange de dire à Google, écoutez, on va vous laisser tranquille. Bon, il y a enfin eu cette directive au niveau européen, et là, on pouvait se dire, Google ne peut pas se permettre de perdre le marché européen. Sauf, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? C'est que comme les différents pays sont très lents à retranscrire la directive dans les différents droits nationaux, ça ne se produit pas en même temps. Que la France a été plus rapide que les autres pays, et du coup se retrouve la première finalement à retranscrire cette directive. Et là, Google, qui ne voit que la France finalement lui imposer de payer sur le court terme, dit à la France, on va vous taper dessus, on ne paiera pas. Et leur pari ici est de dire, bah oui, mais du coup, si la France fait comme a fait l'Allemagne, comme a fait l'Espagne, c'est-à-dire que les médias reviennent et disent non, ben d'accord, ne nous payez pas, et bien après, tous les autres pays vont tomber comme des dominos et la directive n'aura pas de réalité. Et c'est là encore, on en revient un peu comme tout à l'heure face aux partis politiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les médias coopèrent, se mettent à travailler ensemble. Et là, je pense qu'il devrait y avoir un mouvement au niveau de l'ensemble des médias européens. Puisque maintenant, on a une directive européenne, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Puisque maintenant, on a une directive européenne, de la part de l'ensemble des médias européens, de dire très bien, ne nous indexez plus. Et là, pour le coup, je pense que Google, même en position dominante, ne peut pas se permettre de perdre le marché européen.
Il y a quand même eu une chose inouïe qui, moi, me frappe à chaque fois, Julia Cagé, c'est l'idée que les médias, la presse en particulier, la presse d'information, est la seule industrie dans l'histoire de l'humanité qui a décidé à un moment que c'était malin de rendre gratuit ce qu'il faisait payer avant. Et c'est comme ça que les médias, donc nous, avec des responsabilités différentes, parce que cette décision, nous ne l'avons pas prise de manière équivalente, ont creusé leur tombe de manière tout à fait prodigieuse.
Oui, mais ils s'en remettent d'une certaine manière. Il y a eu une Non, mais il y a eu une erreur historique. L'erreur historique a été de dire, au moment de l'apparition d'Internet, qu'on pourrait compenser la perte d'abonnés, donc de clients qui sont prêts à acheter pour le média, par des recettes publicitaires. Et qu'il fallait mieux finalement mettre du contenu gratuitement en ligne pour démultiplier les clics et avoir des recettes publicitaires, ce qui a été une double erreur parce que non seulement on a donné gratuitement du contenu à consommer, mais qu'en plus les premiers médias à avoir fait ça, comme ils étaient au départ un peu en position de leader et qui voulaient conquérir le plus de recettes publicitaires possibles, ont complètement bradé les prix de la pub. Et donc à l'arrivée, on s'est retrouvé avec des médias qui donnaient leur contenu gratuitement et les recettes publicitaires n'ont pas suivi. Bon, alors vous apprenez aux gens l'information est gratuite. Et puis après, vous vous rendez compte que comme vous n'allez pas pouvoir produire cette information avec des recettes publicitaires inexistantes, il va bien falloir refaire payer les citoyens, ce qui me paraît une très bonne chose. Réintroduire des murs payants, c'est-à-dire pousser les lecteurs à se réabonner. Donc avant, ils s'abonnaient au papier, ils allaient au kiosque, et maintenant, ils peuvent s'abonner à la version numérique.
Le transfert n'est pas encore fait.
Ça prend du temps, c'est lent, ça a marché pour un certain nombre de médias dans le monde, notamment des marques, même si j'aime pas ce mot, qui sont des marques fortes. Par exemple, aujourd'hui, le New York Times, et ça c'est très rare dans le paysage américain, gagne plus de la moitié de ses ressources des abonnements et plus de la publicité. Et toute sa croissance, finalement, aujourd'hui, vient des abonnements. Si vous prenez le paysage médiatique français, je ne veux pas parler du Figaro, mais en fait, au Figaro, c'est
Enguerrand,
pareil.
Renaud va peut-être en parler.
Mais ah oui, au monde, c'est vous avez simple. Une croissance très forte. Vous avez aujourd'hui 200 000 abonnés numériques. Donc il y a un certain nombre de médias qui ont réussi à convaincre finalement les lecteurs de se réabonner, de payer pour l'information qu'ils consomment. Et malheureusement, il y en a qui n'arrivent pas à survivre de cette erreur historique.
Enguerrand Renaud, puisque vous
pour revenir sur cette erreur historique et pour rebooker sur Google, effectivement, il y a une quinzaine d'années, on s'est dit que c'était assez simple. On achetait de l'audience à Google et on revendait cette audience aux publicitaires en faisant de l'argent entre les deux. Et puis, les courbes se sont croisées à un moment, en 2010, par exemple, acheter de l'audience sur Google devenait de plus en plus cher et le prix de la pub devenait de moins en moins cher. Donc à un moment, ça n'a plus été possible. On a tous regardé le New York Times qui, le premier, s'est lancé dans les abonnements payants il y a maintenant 10 ans. Et qui en sont à maintenant plus de 3 millions. C'est un modèle économique sur lequel, effectivement, nous ne sommes plus dépendants de la pub. Il faut rappeler que la pub sur le digital et Google et Facebook ont 95% de la pub et 110% de la croissance. C'est-à-dire que tous les restes des médias se partagent la décroissance. Voilà. Donc on va se déconnecter de la pub pour aller sur l'abonnement. C'est pas évident. Le Monde est parti beaucoup plus tôt. Il en a 230 000. Le Figaro est parti après. Il en a 140 000.
Alors justement, je veux en venir au Monde, Julia Cagé. Je veux en venir au Monde parce qu'on a suivi à France Culture. On a expliqué aux auditeurs les différentes étapes de cette crise actionnariale au Monde avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire. Et semble-t-il, il y aurait une solution qui aurait été trouvée, qui est une solution que vous préconisez depuis quelques temps, Julia Cagé. Expliquez-nous en quoi cette solution consiste.
Alors la solution que je préconise depuis un certain nombre d'années, que j'avais défendu dans Sauver les médias, c'est l'idée d'avoir des fondations pour garantir sur le très long terme l'indépendance des médias. Alors concrètement, en droit français, ça s'appelle un fonds de dotation. On va parler d'une fondation pour être un peu plus simple. C'est quoi le problème aujourd'hui d'un certain nombre de médias et de l'indépendance des rédactions et qu'est-ce qui s'est passé dans le cas du Monde? Il faut savoir que le Monde, il y a eu deux victoires. Il y a eu une grande victoire là qui est acquise et qui a été signée lundi dernier, c'est le droit d'agrément. Donc les journalistes du Monde ont obtenu un droit de veto en cas de changement d'un actionnaire contrôlant. Donc là, il y a vraiment une vraie victoire des journalistes du Monde. Mais on voit quand même que pour un certain nombre de médias, y compris du Monde, on peut encore avoir des changements d'actionnariat et des millionnaires, des milliardaires qui décident de rentrer, d'acheter un média et finalement, parfois, d'acquérir une danseuse. Si vous transférez le capital d'un média à une fondation, vous gelez ad vitam aeternum le capital de ce média. C'est-à-dire qu'il ne peut plus être vendu, il ne peut plus être racheté. Et une fondation a aussi le mérite d'être à but non lucratif, donc vous réinvestissez tous les dividendes, non pas pour satisfaire des actionnaires, mais pour augmenter la qualité de l'information produite. Le modèle de la fondation à l'international, c'est le modèle du Guardian depuis plusieurs années, et ça fonctionne. Alors, économiquement, le Guardian a pu avoir des difficultés, notamment du fait du choix de la gratuité, mais en termes d'indépendance éditoriale, ça fonctionne très bien. C'est un mouvement qu'a réalisé à l'été Mediapart, donc qui a garanti l'indépendance de Mediapart ad vitam aeternum en transférant les actions de Mediapart dans le fonds pour une presse libre. Et à terme, moi ça me paraît être la meilleure des solutions pour garantir l'indépendance du Monde, et j'espère que de ce point de vue-là, si le Monde ouvre la voie, c'est-à-dire que si le Monde devient une fondation avec la taille du Monde, le poids économique du Monde, la taille de la rédaction du Monde, je pense que ça ouvrira la voie à de nombreux autres médias.
Alors ça, c'est peut-être une solution pour le Monde, et si c'en est une, on en sera évidemment très heureux, Julia Cagé, mais il y a eu aussi des industriels de la presse qui faisaient de la bonne presse, qui faisaient de la bonne presse pour gagner de l'argent, ce qui n'est pas un gros mot, qui étaient donc des entreprises comme les autres et qui ont construit des titres que nous avons tous lus, de l'Observateur jusqu'à François. François, il faut avoir un certain âge pour l'avoir connu sous forme papier, bien entendu. Le fait de dire que les journaux doivent créer des fondations, est-ce que justement, ça n'est pas le signe que ça n'est plus un business ? Et si ça n'est plus un business, c'est très embêtant, parce que ça veut dire aussi qu'il n'y aura peut-être pas de création, ça veut dire aussi que finalement, on va être dépendant d'oligarques qui, en fonction de leur bon plaisir, vont accepter ou pas de mettre de l'argent dans des médias.
Non, ça reste un business. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous devenez une fondation qu'il n'y a plus d'activité commerciale. Il y a encore une activité commerciale.
Mais si vous ne pouvez plus en céder vendre les titres.
Oui, non, mais alors ça reste un business, mais ce n'est pas au sens où le média produit de l'information et vend cette information à des citoyens et doit continuer à produire une information de qualité et convaincre les citoyens de payer pour cette information de qualité. Mais les bénéfices que fait ce média en vendant cette information sont réinvestis dans la production d'une information de qualité. Et pourquoi c'est important pour les médias ? Parce que les médias ne sont pas une industrie comme les autres. Parce que les médias ne sont pas un business comme les autres. Parce que les médias produisent de l'information, que l'information est un bien commun, que l'information est un bien public et qu'on ne devrait pas vouloir faire la culbute sur l'acquisition d'un média, qu'on ne devrait pas vouloir gagner d'argent sur un média parce que ça va contre la vision d'un bien public. Et si je reprends le cas des États-Unis, aux États-Unis, vous avez énormément de médias qui ont souffert du fait qu'à partir des années 1970-1980, ils ont été introduits en bourse. Et là, qu'est-ce qu'ont fait les actionnaires ? Ils ont regardé les retours sur investissement. Ils sont mis à couper dans la taille des rédactions, à licencier les journalistes. Et ça, c'est pas grave. Si c'est une boulangerie, si c'est un commerce normal, j'ai rien contre les boulangers, mais parce qu'une boulangerie peut faire faillite et ça aura pas de conséquences importantes pour la démocratie, mais dans une démocratie fonctionnelle, je pense qu'il faut...
Vous savez, le prix du pain, ça peut avoir des conséquences sur la démocratie.
Vers l'information comme un bien public. Et ça ne témoigne pas, je veux insister, d'une crise des médias. Si on arrive à transformer les médias comme une fondation, ça témoignera d'un certain état de maturité des médias dans une démocratie qui fonctionnerait bien.
Ce raisonnement est extrêmement séduisant. Il repose quand même sur l'idée qu'effectivement, le média est capable de s'autofinancer, c'est-à-dire qu'il réinvestit tous ses bénéfices. On a vu quand même...
S'il a des bénéfices.
Eh ben voilà. Le problème, c'est s'il a des bénéfices. Reprenons la crise du Monde qui vient de 2010. En 2010, il a été en faillite. Juillet 2010, les salaires n'étaient plus payés. Il a fallu injecter 120 millions d'euros, ce que les trois actionnaires ont fait. Reprenons les transitions digitales des médias, et Le Figaro a mené cette transition digitale, il a fallu injecter beaucoup d'argent, d'accord ? Et le problème, c'est que le Monde, une fois transformé en fondation, va, je l'espère, gagner de l'argent parce que là, il est en situation de gagner de l'argent, mais si un jour, il y a une nouvelle crise, il faudra réinjecter de l'argent. Et là, il faudra en retrouver. Voilà. C'est la difficulté.
Je dis un mot minuscule. Si vous regardez la situation économique du Guardian au cours des 20 dernières années, et notamment des 10 dernières années,
ils ont perdu de l'argent.
Ils n'ont pas disparu, ils n'ont pas licencié, ils ont fait quand même des efforts.
Ils ont une dette gigantesque.
Et aujourd'hui, ils sont en croissance. Oui, mais ils s'en sortent et ils ont pu emprunter. Et c'est essentiel malgré le statut de fondation.
Alors, je vais vous citer dans ce cas-là un autre exemple. C'est l'exemple de ReWorld. ReWorld, c'est un groupe qui a racheté Mondadori. Mondadori, ce sont des titres qu'on connaît tous. C'est par exemple Science et Vie, des titres auxquels on est tous attachés parce qu'on lit Science et Vie et on souhaite que cette presse de vulgarisation et de qualité demeure. Là, pour le coup, il n'y a pas de fondation qui tient. Et si cette presse ne trouve pas son équilibre financier, eh bien, elle risque, ce qui est hélas peut-être le cas, de tomber entre des mains qui auraient des volontés de transformer ces titres qui étaient des titres de qualité en titres, comment dirais-je, différents.
Et oui, vous voyez, en fait, vous illustrez exactement mon propos. C'est pour ça qu'on ne veut pas que les médias, ça soit un business. Parce que si vous en faites un business, vous avez des groupes qui vraiment n'ont aucune intention de produire de l'information de qualité, comme ReWorld Media, et on voit ce qu'ils ont fait dans d'autres pays, qui rachètent Mondadori France. Pourquoi ? Plus ou moins pour les actifs de Mondadori France. Il y a 320 journalistes aujourd'hui, ils en ont déjà poussé entre 70 et 80 à partir. La clause de cession, elle ferme à la fin de la semaine, et il y en a sans doute davantage qui vont partir. Donc en gros, ils vont diviser par plus d'un tiers la taille des rédactions, ils vont couper des têtes, ils vont faire quoi ? Plus ou moins de l'agrégation de contenu. Alors c'est un business, ils vont peut-être rentrer dans leurs frais, mais vous voyez, ils détruisent le métier de production d'information. Et si on avait eu une fondation, je suis désolée de revenir à ça, mais dans ce cas-là, vous empêchez un ReWorld ou un autre acteur pas très bien intentionné de venir juste détruire non seulement le travail de journaliste, mais aussi l'information que ces médias produisaient jusqu'à aujourd'hui.
Enguerrand, Renaud, un dernier mot.
Oui, l'exemple de ReWorld est triste, et ce que dit Julia, c'est effectivement... Alors on peut reprocher à Mondadori de ne pas avoir investi suffisamment pour redévelopper les titres et de s'en être quasiment débarrassé entre des mains de gens qui ont une autre vision de la presse.
Merci Enguerrand, Renaud. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef médias et technologies au Figaro, et Julia Cagé, professeur d'économie à Sciences Po.